C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, c'est un épisode un peu spécial puisque j'ai le plaisir d'avoir devant moi deux invités, Lioris et Ghislain. Je dis bien, c'est Ghislain, c'est ça, Ghislain de MX Media France. Salut les gars.
Salut.
Salut.
Vous allez bien?
Bah, très bien, écoute.
Écoute, on va super bien, puis on est content d'être ici ce matin.
Très heureux de vous accueillir dans le podcast Le Super Daily. Alors les amis, pour vous qui n'êtes pas lyonnais, hein, qui ne connaissez pas encore MX, imaginez un média local de qualité, 100% digital, 100% vidéo, 100% pensé et produit pour les réseaux sociaux. C'est le pari génial que se sont lancés Lioris et Ghislain, les deux fondateurs du média MX. C'est une véritable petite pépite made in Lyon, je trouve. Et j'avais très, très envie d'une, de vous recevoir ce matin, et de deux, de raconter tout ça aux auditrices et aux auditeurs du Super Daily. Bienvenue derrière les micros, les garçons. Je crois que c'est la première fois que vous êtes derrière un micro de podcast, donc ne soyez pas intimidés, on est entre nous, hein, tranquille.
Exactement, ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la première fois qu'on va prendre la parole sur nous, et ça fait aussi un peu bizarre de se retrouver derrière le micro, parce qu'on écoute souvent les Super Daily, et là du coup le fait d'être derrière, bah, c'est très cool, donc merci beaucoup de nous inviter.
Avec plaisir. Alors, Lioris, Ghislain, expliquez-moi un peu, ou expliquez aux autres, hein, ce que c'est MX. Est-ce que, qui peut me dire deux mots là-dessus et résumer un peu ce projet que je trouve dingue, MX Lyon.
Eh bien, écoute, je vais t'en dire deux mots. Nous, alors, MX, c'est un, comme on a l'habitude souvent de dire, c'est un média en ligne sur les réseaux sociaux où on va traiter vraiment de toute l'actualité lyonnaise uniquement à travers des contenus vidéo qui vont être diffusés sur Instagram, Facebook. Et ça va être des formats très courts, très dynamiques, d'à peu près 2 minutes 30, 3 minutes. Et l'idée, c'était vraiment voilà, de se dire, bon, on est à Lyon, deuxième ville de France, il faut quand même qu'on ait un média qui parle aussi à la nouvelle génération. Et c'est là où on est arrivé un petit peu sur ce projet.
Ouais. Et du coup, comment elle est née cette idée? Vous vous êtes rencontrés, vous avez été dès le départ tous les deux. Comment ça se passe en fait? J'aimerais bien revenir là aux prémices de l'idée. Comment elle est née cette idée? Est-ce que c'est... Parce qu'on a tous eu, plus jeunes, des envies de créer un média. Hein. Moi, alors, je vous glisse une info là pour ceux qui nous écoutent chaque matin. Quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, j'ai fait le journal de mon lycée parce que c'était cool de faire un média. Quand j'ai commencé Internet, ce qui me faisait kiffer, c'était justement de travailler mon petit média à moi et de geeker pour, et me faire voir par d'autres et écouter par d'autres. Comment elle est née cette envie, cette idée chez vous?
Ouais, bah je vais te laisser en parler parce que c'est vrai que c'est Lioris qui est vraiment à l'origine de tout ça, mais ça s'est fait assez naturellement finalement au fil du temps. Peut-être que tu peux parler du début.
En fait, concrètement, c'est un projet en effet qui a mûri en parallèle de nos années étudiantes, donc ça date depuis 2013 en réalité, mais c'est un projet qui était au départ une simple page Facebook. Et puis progressivement, on a évolué pour tendre vers un média dans le milieu de la culture. On était vraiment là pour référencer l'offre artistique lyonnaise, notamment avec une vraie sensibilité sur les musiques électroniques. Et puis progressivement, comme on avait une communauté de 40-50 000 personnes, on s'est dit, bon, il faut qu'on a sorti nos études, il faut qu'on trouve un réel projet, déjà pour demain, voilà, créer de l'emploi. Il y avait vraiment cette idée-là. Et puis surtout, on s'est fait un constat, voilà, comme je disais tout à l'heure, Lyon, deuxième ville de France, on ne se retrouvait pas forcément dans les médias. Et puis, on trouvait qu'il y avait aussi une manière plutôt nationale, une ligne éditoriale qui était à des fois une tendance pour certains médias à être morose. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on a une communauté, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et c'est là qu'on a commencé, il y a 3 ans, à se mettre dans une réelle réflexion pour que de ce premier travail axé sur quelque chose de très simple, hein, qui était une page Facebook, on puisse tendre vers un média.
Ouais. Alors aujourd'hui, il y a le site mxfrance.fr. Hein, je le mets en note de cet épisode. Vous irez voir ça après avoir décroché de vos écouteurs. Mais c'est surtout sur les réseaux sociaux, hein, que vous sévissez. Est-ce que vous avez tout de suite pensé natif? Est-ce que vous avez tout de suite pensé plateforme social media?
En fait, je pense qu'on est beaucoup inspiré par les médias qui sont ceux de la nouvelle génération. Donc, si on doit citer des exemples, peut-être Combini, Brut, les médias comme ça, ça nous plaisait beaucoup. Et puis finalement, à Lyon, il n'y avait pas de médias comme ça. Et ouais, je pense qu'on peut dire qu'on s'est un peu inspiré parce que selon nous, c'est le format qui parle le mieux à la nouvelle génération. C'est le format qui est le plus efficace sur les réseaux sociaux aussi. C'est celui qui génère le plus d'engagement. Et en fait, on a aussi commencé avec des articles, tu vois. Au début, on faisait beaucoup d'articles. Et puis, on faisait aussi des articles sur l'actualité. Donc, on essayait de sortir des choses très vite, un peu avant tout le monde. Tu vois, on était un peu dans cette course au buzz. Et quand on a pris du recul sur tout ça, on n'y voyait pas beaucoup de sens. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des formats 100% vidéo. Parce que finalement, ça nous permet aussi de prendre le temps de réfléchir mieux nos sujets, d'être un peu plus dans ce slow content, tu vois. Et ça, ça nous plaisait bien.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on a mis toute notre énergie sur un site. Et on était, comme je disais, c'est important, on est né, nous, un petit peu sur Facebook. On est vraiment la génération Snapchat, TikTok. Nous, on est vraiment la génération Facebook. On s'est fait connaître dessus. On s'est dit, maintenant, il faut qu'on se décentralise de ce réseau social parce que l'algorithme commençait à changer. On s'est dit, on va créer un site, on va envoyer tous nos utilisateurs dessus. On s'est dit, au bout d'un mois, il y aura tout le monde qui va nous suivre sur le site. Puis ça n'a pas fonctionné. Et donc, on est resté dans un modèle à finalement de faire des articles qui rentraient dans les tendances Facebook, mais pas forcément des articles qui nous plaisent. Et c'est là où, notamment lors du premier confinement, on s'est posé tout un tas de questions et de se poser une question centrale, c'est pourquoi on aurait envie de nous suivre. Et c'est une question qui est simple, mais que finalement, on oublie des fois un petit peu de se poser. Et c'est là-dessus qu'on a commencé à dire, on fait des vidéos, ça nous plaît, on a envie d'être libre, on a envie d'être indépendant, on n'a pas envie de parler d'un sujet parce que tout le monde en parle et qu'en effet, du coup, l'algorithme le pousse et ça buzz. Voilà, et c'est là-dessus qu'on a commencé à arriver sur des formats de contenu vidéo.
Ouais, très intéressant, on va y revenir sur ce switch dans le contenu parce que moi je l'ai vu, je l'ai senti, on en a parlé juste avant de commencer cet épisode. Oui, il y a eu un moment où il y a eu un tournant dans votre contenu, donc on va y revenir parce que je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, MX, sur les réseaux sociaux, c'est sur MX Lyon que vous le trouverez. Du coup, vous défendez aussi un fort ancrage lyonnais, je trouve que c'est très cool. Vous le savez, nous aussi, on défend cet ancrage-là. Et sur les plateformes, du coup, c'est MX Lyon qui sort. Le site, c'est MX France. Sur les plateformes, c'est MX Lyon. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous focaliser sur ce périmètre géographique, sur un périmètre géographique, hormis l'évidence que c'est votre ville, c'est là où vous habitez?
Parce qu'il faut, en fait, au départ, on était un média qui parlait de culture. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne savait plus trop à qui on parlait. Et quand on s'est posé cette question de pourquoi on aurait envie de nous suivre, on s'est dit, il faut qu'on aille chercher une communauté, on est revenu à ça, dire finalement, c'est qui aujourd'hui qui nous suit? Et on s'est dit, il faut qu'on parle d'abord à ceux qu'on connaît, nos amis, qui au bout d'un moment commençaient à plus trop nous suivre, qui commençaient à grandir. Bon, musique électronique, au bout d'un moment, voilà, il y en a qui ne s'intéressaient plus trop à ça. Et on s'est dit, comment aujourd'hui on peut les intéresser? Et on s'est dit, finalement, le point commun entre ma mère et un ami, ça va être quand même, il y a un point commun, c'est qu'on est tous lyonnais. Et on a vraiment cherché à dire, il faut qu'on parle aujourd'hui à tout le monde. Et donc, on allait chercher le sentiment d'appartenance, ce lien vraiment fort avec une communauté, dire finalement, voilà, on est tous lyonnais et il faut, c'est notre baseline aujourd'hui, qui est de dire, voilà, Lyon a besoin d'un média qui rassemble. C'est vraiment parti de là. C'est vraiment de dire comment aujourd'hui on peut parler à tout le monde, mais à Lyon. Parce que c'est vrai que c'était cette zone géographique, je pense que c'est déjà important de savoir parler à ceux qui sont en bas de chez nous, donc c'est-à-dire les lyonnais. Et on avait fait d'ailleurs une petite tentative il y a quelques années, on avait lancé une antenne sur Paris et ça n'avait pas bien fonctionné parce que, évidemment, on est tous français, mais parler aux Parisiens, c'est pas comme parler aux Lyonnais, comme parler à des Marseillais, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes centres d'intérêt. C'est très aujourd'hui, on peut vraiment parler de code. Et c'est vrai que par exemple, qu'on a notre format histoire à l'époque, ça cartonne parce qu'en fait, on touche le sentiment d'appartenance. Ah, on est fiers, c'est notre île. Et c'est ça aujourd'hui qui marche très bien.
Ouais, ça c'est très Lurice, non, un truc à rajouter là-dessus?
Ouais,
Justin, pardon.
Pour revenir sur ta question, en effet, on a un site qui s'appelle MX France, c'est parce qu'en fait, au moment où on avait voulu relancer Paris, comme dit Laurie, ça n'a pas marché. Du coup, on a tout rassemblé sous une identité qui s'appelait à l'époque MakeX France. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on a créé le site internet, donc mxfrance.fr. Mais finalement, tu vois, si on recréait le site aujourd'hui avec un nom de domaine, je pense qu'on l'appellerait tout simplement mxlyon.fr. Et voilà pourquoi ça s'appelle MX France, mais c'est vrai que ça va évoluer petit à petit aussi.
J'imagine. Alors, donc c'est un média, on est d'accord là-dessus, c'est un média. Est-ce que vous êtes journaliste?
C'est une grande question. Non, en fait, on est tous les deux, on s'est retrouvés à l'IAE de Lyon, c'est là où on s'est rencontrés et où on est allé en effet dans un master en entrepreneuriat. On a vraiment cette volonté tous les deux de créer une entreprise, on est parti d'un existant pour justement le développer. Et aujourd'hui...
Avec Alain Asquin ou...
Oui, ah, bien sûr.
Ah, voilà, on passe le bonjour. On est passé avec Rémi qui est juste à côté, mon associé. On est passé par les mêmes études, les garçons.
Ok, génial.
Avec Alain Asquin aussi. Big up à Alain. Voilà,
Du coup, c'est vrai qu'on a un profil un peu particulier parce qu'on n'est pas du tout le profil qui sort d'une école de journalisme. Pour autant, aujourd'hui, qu'on le voit, aujourd'hui, il y a un peu une frontière qui est un peu floue entre journalisme, qu'est-ce qu'un média. Des fois, on voit même, c'est toute une réflexion là-dessus. Et aujourd'hui, nous, simplement, on s'est dit, on n'a peut-être pas fait d'école de journalisme, pour autant, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une opinion, une envie. Et on a lancé ce média. On n'a pas la prétention du tout de faire du journalisme d'investigation, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais par contre, on est en capacité aujourd'hui de créer du contenu qui aujourd'hui rassemble les Lyonnais, de parler de sujets de société, parce que on en a...
Allez, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Hein. Franchement, du côté du progrès, ils doivent vous voir venir, ils doivent se dire « Oh, les salauds, ils sont en train de nous botter les miches !» Parce qu'en fait, concrètement, je trouve que ce que vous faites, c'est le progrès pour la jeune génération. On parle de notre territoire, on en parle avec ce qui intéresse les jeunes et pas exclusivement le tournoi de pétanque du coin. On parle de trucs, de vrais sujets cool. Et en fait, effectivement, on le voit que vous n'êtes pas des journalistes, et c'est peut-être ça, je prends le risque, c'est peut-être ça qui fait que le contenu, il a cette saveur, une tonalité, il a un angle, il est peut-être aussi plus dans l'empathie, dans le vrai, que là où un journaliste va être plus dans le factuel. Intéressant, vaste débat, ce sujet des journalistes.
Totalement.
Est-ce que vous avez eu déjà, vous, mal à partir avec comme ça, des échanges, en tout cas avec des vrais journalistes qui disaient « Ah, mais on fait pas le même métier, c'est pas la même chose, etc. »
Non, on n'a jamais été trop attaqué là-dessus parce que c'est vrai qu'on a toujours eu cette volonté de travailler aussi en bonne intelligence et surtout de travailler aussi avec des journalistes. C'est-à-dire, là, on avait fait un sujet sur les élections municipales à Lyon où on avait justement fait un sujet avec Rue 89. Donc, on s'est associé au 89 Lyon. On leur passe aussi le bonjour et c'est vrai qu'on s'était associé avec eux pour traiter un sujet. Nous, notre idée, c'est vraiment... notre métier, c'est de savoir aussi créer du contenu. Les journalistes sont très bons dans un domaine, mais ils ne sont pas forcément leur métier de savoir créer du contenu. Donc nous, c'est un grand plaisir de s'associer avec des journalistes, des Lyonnais, et on en a même d'ailleurs fait un sujet. On avait interviewé François Sapi justement sur « Tiens, aujourd'hui, le métier de journaliste ». Enfin, on est vraiment très connecté à ça. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une logique d'ouverture que plutôt de dire « nous, on est les jeunes, ça y est ». Ce fameux terme que je déteste de millennials, ça y est, on va tout réinventer, on est les meilleurs. Ce n'est pas du tout ça l'idée et notre ADN.
Ils sont jeunes, mais sympas. En fait, chez MX.
Non, mais c'est vrai, tu le dis. On réfléchit en bienveillance par rapport à tout ça. Tu vois, on ne se place pas du tout comme des anti-journalistes ou quoi. La société a besoin de journalistes, et surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Mais finalement, nous, on a notre façon de voir les choses sur l'information et elle nous appartient à nous. Après, que ça plaise ou pas aux journalistes, à la limite, j'ai envie de te dire, comme tu dis, ça marche bien pour nous, donc on est plutôt contents.
Disons que pour ajouter, je pense que c'est aussi important de pas... On est dans une société aujourd'hui où c'est vrai que c'est très cloisonnant. Est-ce que tu es journaliste ? Ah non, tu ne l'es pas, tu ne veux peut-être pas faire un média. Aujourd'hui, en 2020, je pense que ce sujet, il est passé, on s'en fiche. Concrètement, c'est juste d'être compétent et d'avoir aussi une certaine déontologie. On n'a pas besoin d'avoir une carte de presse pour avoir une déontologie. Mmh. On le voit sur certains médias journalistes. Nous, aujourd'hui, on a une déontologie, c'est déjà de permettre à notre audience d'être cette volonté. Certes, il n'y a pas de médias qui parlent de génération à Lyon, de sujets de société, notamment, mais aussi de cette capacité à redonner la parole aussi à la société civile et de, justement, leur permettre de prendre du recul sur des sujets. C'est vraiment cette volonté. Nous, si les gens, justement, regardent des mix, on ne cherche pas, nous, à se mettre en avant. On cherche surtout à valoriser les gens qu'on interviewe, que ce soit des journalistes, des politiques, des commerçants, des jeunes, enfin tout un tas de personnes.
Ok, donc vous déboulez, vous dites, on va créer ce média, génial, il est là, le média. Comment on constitue une équipe autour de ce projet-là ? C'est quoi ? C'est combien de personnes aujourd'hui l'équipe MX ? Et puis c'est quoi les types de profils qu'il y a dedans ?
Alors tu vas être surpris. MX aujourd'hui, c'est 4 personnes, mais pendant très longtemps, ça a été en effet 2 personnes avec, en effet, de temps en temps, beaucoup de personnes qui nous ont aidés sur ce projet, des personnes qui ont été en stage chez nous, des gens qui ont passé du temps avec nous pour développer ça. Mais aujourd'hui, en effet, pendant très longtemps, ça a été 2. Là, tout récemment, on est 4 pour justement développer ce média. Ça surprend des fois parce qu'on a cette croyance, un média fournit beaucoup, pas forcément. On peut faire des choses très simples et qui fonctionnent.
Ok, donc là, vous, concrètement, on se parle, mais vous avez aussi les mains dans le cambouis de temps en temps, quoi. Hein. Ça fait du montage, ça tourne, etc. Trop bien, super. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui un reporter MX si on le croise dans la rue? Il ressemble à quoi? Il se trimballe avec... Est-ce qu'il se trimballe avec le même matos que l'équipe de Rue 89? On le sait, hein. Les médias tradis, etc. ont vachement adapté leurs outils de prod et sont passés en mobilité. Il y a de plus en plus d'iPhone hein, qu'on trouve dans la rue. C'est quoi aujourd'hui le matos type... pour ceux hein, qui nous écoutent, qui voudraient produire du contenu, comment est-ce que sont produites les vidéos MX? Si on vous croise dans la rue, qu'est-ce que vous avez sur le trépied?
C'est peut-être important de repréciser les formats qu'on a, parce que finalement, suivant les formats qu'on a, c'est pas la peut-être.
Vas-y, je t'en prie, ça sera une question. On y reviendra, mais c'est très bien, t'as raison.
Mais bah, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que suivant le format, on n'a finalement pas, pas la même équipe. Mais en fait, la plupart du temps, on est juste deux. Sur les formats de société, bah, c'est Loris qui pose les questions et moi qui suis derrière l'iPhone. En effet, on a un iPhone pour tourner, plus un micro à la main. Vraiment, finalement, notre matériel, il n'est pas incroyable, mais ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. Et du coup, si tu nous croises dans la rue, bah, potentiellement, tu ne te diras pas que c'est un média, tout simplement, parce qu'on n'a pas de grosse caméra à l'épaule ou quoi que ce soit. Ce n'est pas juste notre genre.
Est-ce que, alors moi, la question que je me posais, est-ce que du fait que ces outils de production média, ils sont maintenant considérablement miniaturisés, réduits, etc. Est-ce que ça permet aussi d'aller chercher un contenu qui est différent de l'époque où tu avais TLM qui déboulait pour les Lyonnais, hein, TLM, Télé 8 Mont-Blanc pour les Savoyards qui déboulait avec des énormes caméras de télé? J'imagine que ça change tout dans le rapport aux gens.
Ça change beaucoup de choses. Ça change de un, c'est cette idée de simplifier. On n'a pas besoin d'être 4, 5, des fois on voit des équipes faire des tournages. 5 personnes pour faire une vidéo qui va avec un rush de 3 à 4 heures pour faire un montage pour que la vidéo fasse au final 2000 vues. Voilà, nous on était tout de suite connectés sur comment on peut faire aujourd'hui de l'audience. C'est quand même la finalité aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec ce matériel, il y a déjà première chose, c'est une question de temps, une question aussi de, voilà, on va faire des choses simples, mais surtout, c'est aussi un petit peu la recette. Les gens aujourd'hui consomment du contenu sur un smartphone. Et concrètement, pourquoi filmer un contenu avec une grosse caméra alors que tout le monde est sur son smartphone? Et puis surtout, on a voulu créer cette sensation d'avoir des contenus authentiques qui incitent à une proximité. Nous, les premiers, on n'est pas forcément à l'aise devant une caméra. Ça pressionne toujours un petit peu. Et à un iPhone, on arrive bien à mettre à l'aise les personnes qu'on interviewe qui n'ont pas forcément l'habitude de passer devant une caméra. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est donner cette sensation à notre audience d'être présent. Quand, par exemple, on interviewe le maire de Lyon, on veut donner cette sensation en tournant l'iPhone que c'est un contenu que tout le monde pourrait faire et où l'audience pourrait être présente avec nous.
Ouais. Aujourd'hui, MX sur les réseaux sociaux, c'est un contenu vidéo tous les deux jours, si j'ai bien fait mes comptes, plus ou moins ça en tout cas. Déjà, bravo, parce que c'est assez costaud, hein, c'est un beau rythme. Hein, voilà. Et je pense qu'il y a 2-3 CM et CMM qui nous écoutent, qui disent ouais, « deux par jour, c'est deux par semaine, tous les deux jours, pardon, c'est beaucoup ». Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui votre programme éditorial? Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce qu'on est un média, donc on se met tous autour d'une table et on fait une conférence de rédaction? Est-ce que c'est plus intuitif que ça et vous êtes un peu au fil de l'eau? Ça se passe comment?
En fait, comme disait Loris, il y a eu cette période de réflexion pendant le premier confinement. On entend souvent dire que le confinement a permis à des entreprises d'être productives sur de prendre du recul, tout simplement. Nous, ça a vraiment été le cas. On a pris du recul sur notre ligne éditoriale. Et en fait, on s'est mis dans la tête de créer des formats de contenu. Et du coup, ces formats, ils nous permettent d'une part de créer des rendez-vous pour notre audience, mais aussi d'être beaucoup plus organisés, nous, en interne, parce qu'on sait que chaque semaine, on va devoir sortir tel type de format. Clairement, on réfléchit semaine par semaine. Parfois, on a des choses on sait que ça va se préparer un peu plus loin, mais c'est souvent semaine par semaine. La plupart du temps, on prend du temps le vendredi après-midi, pour être très précis. Et on va réfléchir, bah, qu'est-ce qu'on va aller mettre dans ce format? Qu'est-ce qu'on va aller mettre dans ce format? Qu'est-ce qu'on va aller mettre dans ce format?
Alors, c'est quoi les piliers de contenu, là, aujourd'hui, de MX? Tu parles de séries de contenu. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur votre IGTV. Hein. Il y a des petites séries, là, vous cliquez sur le bouton et là, vous voyez différentes séries. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi aujourd'hui les formats qui sont travaillés par MX?
On en a 3 plus 1, finalement. Il y en a un qui...
Bon, deux autres, on a des petites... des petites friandises, on va dire, en termes de contenu.
Ouais. Le premier, c'est le format à l'époque, qui est dédié à l'histoire à Lyon, tout simplement.
Très cool. Là, vous avez trouvé un profil, d'ailleurs, face caméra, qui est très, très bon, je trouve. Un monsieur chevelu, là, qui te raconte l'histoire. C'est le Stéphane Bern lyonnais.
Il y en a qui le définissent comme tel dans les commentaires, d'ailleurs. En effet, c'est Vlad, qui est un prof d'histoire et, en fait, qui nous suit depuis longtemps. Voilà, il était contributeur au début de MX et il a un profil qui nous plaît beaucoup, déjà humainement, mais aussi parce que c'est un grand curieux et qu'en fait, on a vraiment besoin de ça pour ce format, finalement.
Et donc, à l'époque, vous racontez concrètement l'histoire des monuments de Lyon, l'histoire des bâtiments, un fait divers qui date d'il y a 150 ans et qui a donné nom à telle rue. C'est vachement intéressant.
Ouais, exactement. On essaye d'aller chercher de l'anecdote et des choses un peu précises plutôt que de parler, je ne sais pas, d'un courant historique. On essaye d'aller se focus sur des choses très précises. Là, typiquement, celui qu'on a sorti mardi, c'est sur l'expression « l'hôpital qui se fout de la charité » qui s'avère être une expression lyonnaise.
Ouais, j'ai appris ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Et il explique ça. Le deuxième, c'est le format. Parlons-en, peut-être que tu peux en parler parce que c'est un peu plus ton format.
C'est en effet tout ce qui touche au sujet de société. Donc, c'est vraiment cette idée de dire « tiens, il y a un sujet qui peut se passer dans notre pays, comment on peut le traiter d'un point de vue local ?» Ou à l'inverse, des choses qui peuvent se passer aussi à Lyon, mais qui peut aussi intéresser une audience qui n'est pas que lyonnaise. On n'est pas non plus, on parle beaucoup de Lyon. Évidemment, moi, je ne suis pas à la base originaire de Lyon, donc j'ai aussi cette idée de dire on ne va pas non plus être chauvin, parce que Lyon est aussi une ville un peu des fois, on peut nous catégoriser comme étant chauvin. Ce n'est pas du tout l'idée. Hein. On cherche vraiment aujourd'hui à dire on peut partir d'un sujet et ça peut parler aussi à tout le monde. On peut parler à des Grenoblois, même des Parisiens.
Enfin, justement, voilà. Petit crochet là-dessus. Pour revenir sur cet aspect local, on le sait, BFM a fait des gros moves, je crois que c'était fin 2019, pour se réinstaller en région. Ils ont monté notamment BFM Lyon, je crois qu'ils sont aussi dans le nord de la France, etc. Ils ont monté plein d'antennes locales. On assiste à une sorte de renouveau, j'ai l'impression, du média de proximité, du média local qui était initialement un petit peu squatté par des historiques qui n'étaient pas tellement vu, regardé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là? Moi j'ai raté un wagon là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à votre avis?
C'est vrai qu'il y a eu une crise de la presse qui était très forte, qui fait que des antennes du Monde et d'autres médias qui étaient présentes, notamment à Lyon, ont pu s'arrêter. Et c'est vrai qu'on a perdu cette presse de proximité. Alors il y a tout un tas de journaux et heureusement qu'ils sont là, même s'ils ne parlent pas forcément de nos générations, ils ont tout le mérite d'exister et heureusement aussi qu'ils sont là. Mais c'est vrai qu'on a perdu un peu cette presse de proximité. Et si on se compare à des médias qui nous inspirent beaucoup, qui sont par exemple Brut, Combini. Brut va avoir beaucoup plus une vision, on va dire même internationale aujourd'hui, de développer des médias dans d'autres pays. Nous, aujourd'hui, notre vision, c'est demain de dire, on va d'abord bien se concentrer sur Lyon, mais de pouvoir développer en effet d'autres antennes, une vision nationale, de développer d'autres villes. C'est vraiment cette idée aujourd'hui de dire, nous, on veut un petit peu participer à réinventer un peu cette presse de proximité.
Ok, super intéressant. Alors, je m'excuse, on était en plein dans les formats. Autre format, tu disais.
Il y a le dernier qui s'appelle Gratin, du coup, qui est le format dédié à la bouffe à Lyon. Et Dieu sait si Lyon est une ville qui aime ça. Du coup, ouais, Gratin, c'est tout simplement aller à la rencontre de ceux qui font la culture food à Lyon. Et là-dessus, on fait vraiment autant passer des acteurs hyper importants, hyper connus, comme par exemple la mère Richard, si on doit donner un exemple, autant des restos un peu plus dans l'ombre, moins connus, mais qui nous intéressent beaucoup par rapport à leur offre. C'est des formats qui fonctionnent très bien aussi.
Puis on a aussi deux autres formats. Tout à l'heure, je parlais, voilà, on ne veut pas non plus nous-mêmes se cloisonner à ces trois-là. Demain, il y en a qu'on va peut-être arrêter pour en créer peut-être un autre. Mais on a en tout cas un format qui s'appelle Studio MX, parce qu'on n'oublie pas non plus la culture. C'est important pour nous, c'est aussi ce qui permet de fédérer l'audience. La culture rassemble aujourd'hui, donc c'est un format où on va permettre à un artiste de jouer un morceau et puis on lui poser quelques questions. Puis on a aussi un format qu'on appelait bonus. Voilà, nous, les noms des formats, c'est très simple, en 2 minutes, on l'a trouvé. bonus, c'est des sujets qu'on a envie un peu exceptionnel, des trucs qu'on voit pas tous les jours. Typiquement, là, on avait fait un format bonus sur l'installation du sapin de Noël à Hôtel Dieu. Comment les mecs, ils installent 14 mètres de...
Comment ils le font rentrer?
Comment ils le font rentrer dans l'Hôtel Dieu?
C'est la question qu'on peut se poser.
Voilà, bonus. Alors on peut dire, c'est quoi ce contenu? Il est simple comme bonjour. Bah ouais, mais ça fonctionne. En fait, les gens adorent voir ça. Ouais. Et juste pour venir sur cette notion de format qui est peut-être pas forcément tangible pour tout le monde. L'idée, c'est pas juste un format de... On va dire, tiens, c'est tant de minutes, essayer de filmer à l'iPhone. Un format pour nous, c'est vraiment cette idée dans le média qui est une marque. On va créer finalement des sous-marques. L'idée, c'est que à l'époque, on l'a brandé, on a créé un logo, une animation qui va être dédiée. Et en fait, avant, on était beaucoup sur plein de contenus comme plein de médias aujourd'hui. Tiens, on fait quatre articles par jour, il faut absolument faire ça. À aujourd'hui, uniquement trois contenus qui nous structurent.
Ouais, mais c'est...
on passe beaucoup moins de temps. Et cette capacité aujourd'hui de gérer un média en étant en effet une toute petite équipe, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir tenir ce rythme.
Ce dont tu parles, c'est ce qu'a fait très bien Combini par rapport à Brut. Brut, initialement, arrivait avec 3 tonnes de contenu qui étaient tous finalement très brandés, identiques et se ressemblaient. Combini est arrivé justement en séquençant, en créant ses interviews sandwich, la pire interview, etc. Et en brandant chaque programme. Donc effectivement, on retrouve un peu ces codes. Alors MX, vous m'avez expliqué tout à l'heure, c'est un média qui a 5 ans déjà, hein, c'est ça à peu près. Hein. Je dis une bêtise, non, c'est
alors,
ça.
On dirait aujourd'hui que MX est vraiment, on peut vraiment parler de média depuis 2 ans.
Ok.
Il y a une histoire qui est intéressante parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, des fois, on voit des personnes qui parlent d'un projet, on a l'impression qu'ils ont pété en 2 semaines. Et des fois, c'est même frustrant, mais il y a toujours une histoire quand même derrière. Donc, on ne l'oublie pas. Mais le projet a tellement évolué qu'aujourd'hui, non, on est vraiment dans un mood de média depuis 2 ans.
Ouais, donc initialement, vous étiez très focus sur les premières années sur la culture, les musiques électroniques, etc. Et on sait qu'à Lyon, il y a une grosse scène, il y a une grosse actu là-dessus. Donc j'ai presque envie de dire que vous avez switché au bon moment, hein, en fait, parce que là, actuellement, ils sont en difficulté, nos amis. Une bascule vers un média plus de proximité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui parle de la vie de la cité au sens large, très intéressant, politique, etc. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Revenons-en à la base là, de ce déclencheur de switcher, parce qu'on va être clair, quand on est derrière la caméra, quand on crée un média, on a envie de kiffer. Et c'est beaucoup plus kiffant d'aller interviewer des artistes, d'aller couvrir un festival, etc., de se faire payer des bières gratos, d'aller dans la rue et faire des micro-trottoirs ou interviewer le maire du 3e arrondissement. Qu'est-ce qui vous a fait switcher, en fait ?
Si vous, a fait
vous avez vieilli, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors là, on a mûri, en effet, mais il y a eu cette idée de dire, quand il y a eu ce premier confinement, on s'est vraiment mis dans un mood, comment on peut faire de cette période une opportunité. Paradoxal de dire ça, parce qu'elle est très compliquée pour tout un tas d'acteurs. Elle a été aussi compliquée pour nous, de dire, c'est quand même, cette crise, elle tape quand même de tous les côtés. Mais on s'est dit, comment on peut aussi se mettre dans un mood, dans une opportunité, parce qu'il ne faut pas oublier que Combini a été créé après la crise de 2009, et c'est là où même plein de projets ont pu péter grâce à cette crise. Et, enfin grâce... De par cette crise, il y a eu un début. Et nous, c'est pareil, on a voulu vraiment se dire comment on peut faire ça. Alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Pourquoi on a envie de nous suivre? Cette fameuse question que j'avais parlé au tout début. Et puis, on a commencé à lister tous les sujets qu'on avait envie de traiter. Et sans se poser la question de est-ce que ça va marcher, pas marcher. On a envie de parler de ça, on le fait. Et là, on a commencé ensuite à catégoriser ça dans des thématiques qui sont devenues des formats. Il y en avait plein d'autres qu'on avait envie de sortir, qu'on dirait on le fera plus tard. On va se concentrer déjà sur 3 choses, pas plus de 3 on va dire colonnes vertébrales. Et puis en fait, il y en a 2. L'histoire, c'est ce qui rassemble tout le monde. Il n'y a pas de clivage aujourd'hui quand on parle de ce sujet-là. Et puis la gastronomie, c'est aussi le point commun de tous les Lyonnais. C'est notre ville, quand Paul Bocuse dit Lyon est une ville qui donne faim. Voilà, c'est cette idée-là. Et de fait, de ces 2 formats qui nous permettent de rassembler notre communauté, on lance Parlons-en, parce que nous, notre conviction, c'est qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, on a évolué, puis surtout, on voit les enjeux aujourd'hui de la société sont trop importants pour qu'on puisse juste se dire, on va parler bouffe, histoire, et puis musique. Aujourd'hui, on peut pas se permettre d'avoir pour moi, on peut pas se permettre d'avoir une communauté sans aussi un petit peu creuser des sujets de société.
Moi, ce que je trouve très intéressant, les gars, c'est qu'il y a des médias qui se sont montés parallèlement. Bien souvent, soit ils se sont montés sur des stratégies de clivage. Et là, puisqu'on parle de Combini, franchement, c'est la recette quand même de Combini. Ça a été la recette comment il s'appelait Buzz, éclairez-moi, Minute Buzz, qui a vraiment bossé là-dessus, etc. C'est je clive dans mon contenu, je parle de vegan, comme ça, boum, ça embarque. Je parle de féminisme. Ce que j'aime dans la approche que vous avez, et c'est marrant parce que tu parlais de déontologie tout à l'heure, c'est que sans être pour autant un média traditionnel, en apportant peut-être plus d'authenticité dans votre contenu, il y a un positionnement qui est positif. Vous êtes là pour... il n'y a pas de recherche du clivage, et comme quoi, et pourtant les stats sont bonnes, tu vois, on pourrait se dire, algorithmiquement, ils auraient intérêt à aller sur le clivage et à nous faire un sujet spécial OL à SSE, comme ça, peut-être que vous y viendrai. Mais je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça a été, je dirais, conscientisé? Vous êtes dit, oui, on veut surtout pas partir vers là. On blacklist là où il va y avoir clivage parce qu'on n'est pas à l'aise. Ou est-ce que bon, c'est quelque chose qui se fait naturellement? Comment ça se passe?
En fait, il y a eu plusieurs étapes aussi sur cette réflexion-là. Un exemple très concret, on a aussi beaucoup fait d'événementiel et on continue à en faire quand il n'y a pas le Covid. Et il y a eu un événement qu'on avait fait à l'Auditorium de Lyon, où en fait, ils nous avaient appelés justement pour faire l'un de leurs, ce qu'ils appelaient les after-work. Et au moment de cet événement, on avait ramené notre communauté, forcément, parce qu'on avait fait la promo de cet événement. C'était MX fois l'auditorium, finalement. Et il y avait aussi leur communauté. Et on s'est rendu compte pendant cet événement qu'il y avait autant des seniors, 60 plus, autant des gens de notre âge. Et en fait, on avait adoré ça, le fait qu'il y ait toutes ces communautés d'âge qui se rencontrent. Et en fait, je pense je pense que ça nous a aussi fait réfléchir à ce moment-là sur le fait de dire on aimerait finalement que ce média il rassemble aussi toutes les communautés lyonnaises autour de l'amour de la ville. Et puis,
il y a eu vraiment cette idée, c'était là, on a eu un déclic. Je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de médias qui s'adressent à nos générations, on pourrait catégoriser de jeunes 18-30 ans, mais nous, quand on voit des statistiques, il y a vraiment aussi cette idée de dire, on peut parler quand même au grand public lyonnais, c'est pas parce qu'on fait un format, on est très content de dire, tiens, aujourd'hui, des personnes qui ont plus de 50 ans puissent regarder, on est très content de ça. Donc cette idée de rassembler, elle vient en effet, c'est vrai que ça vient de là, mais surtout, nous, on ne supporte pas aujourd'hui ce qui est client. C'est trop facile aujourd'hui de faire du buzz, quand on voit aujourd'hui des médias qui mettent en avant, regardez, la ville est dégueulasse. Il y a eu beaucoup de contenus qui ont fait des millions de vues là-dessus. Oh, regardez, encore un énième rodéo. Oh là là, encore un énième problème. Ça apporte aucune info, ça apporte rien. Ça apporte juste, ça va buzzer parce que les gens vont interagir, ça rentre dans l'algorithme, mais ça apporte rien du tout. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dire comment on peut traiter chaque sujet différemment. Tiens, par exemple, je reprends, il y avait une vidéo qui avait été tournée, relayée par plein de médias sur les berges du Rhône, qui avait été filmée avec, dans un état pitoyable. Nous, on s'est levé le matin, on a donné la parole à des jeunes lycéens qui avaient totalement nettoyé toutes les berges. C'est traiter vraiment les choses différemment. Alors, je dirais pas qu'on est dans une forme de neutralité, parce que c'est déjà une subjectivité de vouloir faire quelque chose en quelque sorte de neutre, de positif, qui rassemble. Mais il y a quand même cette volonté de donner la parole à tout le monde et de, qu'on part pas dans tous les sens. Alors, il y a un autre point que je voulais aussi parler. Dans notre cheminement, dans notre cheminement de format, ce qui s'est passé, c'est que nous, à la base, on est né sur Facebook, et notre média, on s'est dit aujourd'hui, notre tueur de cible, ça reste quand même les jeunes, ils sont sur Instagram. Et là, était là aussi très important le tournant. Si on s'est dit, au départ, on pensait tous nos contenus comme Facebook fonctionnait. Et il y a souvent cette idée, on le voit d'ailleurs sur des marques, même des médias, qui disent, faut qu'on se mette comme sur Instagram, on prend nos contenus, on les duplique sur Instagram. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes audiences, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, on va prendre Instagram, ça va être notre réseau social prioritaire, on va finalement penser Instagram et on va penser tous nos contenus adaptés à ce format-là. Et Facebook, où avant on n'arrivait pas à décoller nos audiences, on mettait plein d'objectifs, plein de trucs, ça ne marchait pas. Au final, on l'a utilisé comme un complément. Et des vidéos qu'on a pensées Instagram comme gratin, qui font plusieurs centaines, plusieurs dizaines de milliers de vues sur Instagram, elles vont dépasser des fois les 2 millions de vues sur Facebook.
Ouais. Aujourd'hui, ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Si on revient juste sur les audiences aujourd'hui, j'ai pris 2-3 notes avant cet épisode. Vous avez un peu d'avance sur Facebook, c'est l'historique. 30 000, plus ou moins 30 000 followers. Sur Instagram, 14 000. Avec un vrai gros décollage, j'ai l'impression. On y reviendra peut-être là ces derniers mois, cette dernière année 2020. Puisque tu parles d'Instagram, j'avais effectivement prévu qu'on parle de ça parce que j'ai le sentiment, nous, on a une conviction, c'est qu'Instagram a largement changé et qu'en 2020, il s'est produit des choses notables sur Instagram. C'est devenu une plateforme, je dirais, quasiment adulte. En tout cas, il y a eu un basculement d'usage vers la recherche de contenu plus mature, plus nourri. On voit aussi que Instagram, c'est une place où on peut davantage écrire. Il y a une vraie appétence des audiences là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est un des éléments qui explique là, il y a cette similitude, vous arrivez au bon moment, au moment où Instagram est en train de changer et vous arrivez avec un contenu qui est un vrai contenu à forte valeur ajoutée sur la plateforme. Est-ce que ça, c'est un truc qui a contribué à votre décollage, vous pensez?
Oui, ça, c'est évident, mais je pense qu'il y a aussi cette idée, c'est vrai qu'au départ, avant le confinement, le premier confinement, on touchait 30-40 000 personnes sur Facebook. Et puis Instagram, c'était vraiment le complément. ce qui a changé, c'est aussi cette idée de, il y a eu en effet un bon timing avec des changements, on va dire dans la manière de, dans les changements d'usage, mais il y a aussi une réelle prise de conscience de notre côté de tout ce travail-là, comment on peut optimiser en termes de temps.
Ouais.
Et vraiment de ne pas partir dans tous les sens. Aujourd'hui, avec le nombre de réseaux sociaux, on le voit, les annonceurs vont partir des fois, il faut qu'on soit sur YouTube, il faut qu'on soit sur TikTok, allez, il faut partir dans tous les sens. Mais il n'y a pas un réel cap qui est fixé pour nous. L'enjeu principal d'un réseau social, c'est quand même de créer une communauté. Et c'est parce qu'on a une communauté qu'on peut ensuite parler de plein de choses. Et donc, Instagram, c'est vrai que c'est un bon réseau social qui est approprié pour fédérer, créer une communauté. On sent un peu, c'est un peu plus intimiste qu'un Facebook où des fois on sait plus qui on touche.
Mais d'ailleurs, ça a une implication première, c'est vos contenus vidéo, ils sont filmés au format 9/16e, ce format, les gens qui nous écoutent là au Super Daily le savent, ce format 9/16e, nous on le kiffe, on pense que c'est là que se situe la vérité. Moi j'ai scrollé un petit peu votre Facebook, je suis allé voir très loin, il y a 3-4 ans en arrière, et forcément à l'époque vous n'étiez pas sur ce format vertical, hein. Vous faisiez un peu comme tout le monde, des formats d'abord 16/9e, ensuite des formats carrés, et maintenant c'est tout produit effectivement exclusivement en format 9/16e, donc à destination native d'Instagram, un petit peu moins natif sur Facebook, et puis on retrouve certains contenus sur YouTube où là, bon, bah, on est beaucoup moins dans le natif sur ce format-là. Est-ce que ce choix de tout basculer, de prendre le choix, de dire maintenant la vidéo, on va la faire 100% 9/16e, est-ce qu'il s'est imposé à vous? Est-ce que ça a été une décision compliquée à prendre? Est-ce que vous avez eu des hésitations? J'aimerais bien vous entendre là-dessus.
Franchement, on le sait que les jeunes, ceux de notre génération, puis nous-mêmes, on consulte l'info et tout le reste, en fait, tous les contenus qui nous passent devant les yeux sur le téléphone. Et ça nous paraissait quand même un peu contre-productif d'aller faire des formats horizontaux qui finalement allaient occuper une toute petite partie de notre écran de téléphone. Et c'était vraiment sur cette base-là qu'on a réfléchi et qu'on s'est dit, en fait, il faut que tous nos formats ils soient fités pour le téléphone et que ça occupe toute la place de ton écran de téléphone. Et finalement, ça a été assez naturel. Quand on a commencé à faire ça, on s'est rendu compte qu'on allait faire que ça, finalement. Et je pense qu'en plus, vous savez peut-être mieux que nous, mais je pense que l'algorithme, les préfèrent en plus ces formats en 9/16e sur Instagram, sur Facebook. Donc maintenant, on ne fait que ça et on ne fera que ça.
Il y a un point aussi qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure de, voilà, on touchait 40 000 personnes chaque semaine sur Facebook. Aujourd'hui, en l'espace, en effet, de 6 mois, c'est 500 000 personnes qu'on touche. Donc, en effet, un gros boom. Ça passe en effet par cette ligne éditoriale. Ça passe par aussi cette volonté de dire, voilà, tout ce... Je ne veux pas répéter, mais toute cette première étape, dire pourquoi on a envie de nous suivre, une fois qu'on a répondu à cette question, comment aujourd'hui on peut structurer ces contenus-là, tant pour gagner du temps, tant pour aussi s'adresser à notre communauté. Mais il y a aussi cette idée de dire, voilà, nos formats de contenu, aujourd'hui, il faut qu'ils soient instantanés. Instantanés, on l'oublie souvent, pour nous, quand on passe déjà, si aujourd'hui, il y a une équipe de tournage qui passe 3 jours à faire un contenu pour être diffusé sur Instagram, bon, ça peut fonctionner. Mais c'est quand même relativement plus compliqué. Aujourd'hui, on le voit, il faut que le contenu soit instantané. Quand il y a, par exemple, sur un sujet de société, quand il y a une manifestation, il faut le publier tout de suite derrière. Il ne faut pas passer 3 jours à monter le sujet puis regarder, on y était. Pareil pour aujourd'hui. Oui, il faut prendre le temps, mais en même temps, il faut avoir des contenus qui sont simples à monter. On n'y passe pas 10 heures. C'est cette idée-là.
Ouais, ils sont sharp hein, chez MXLion, ils savent où ils vont. Alors moi, du coup, j'ai une question. Hein. C'est parce que ça, c'est top, c'est très bien. Le business model, c'est quoi? Comment ça marche, votre truc? Où est-ce que vous gagnez votre vie, les garçons? C'est quoi? Vous faites de la pub sur vos contenus? Il y a des encarts pub? Parce que si vous étiez sur YouTube, je me dirais, bah, ils médiatisent avec leur audience, tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe sur Instagram, sur Facebook, etc.?
Alors nous, ça, c'est un sujet qui va plaire aux journalistes. On voulait être totalement indépendant. On ne voulait pas un média qui soit payant, j'allais dire sur les réseaux sociaux, mais on voulait aussi qu'il ne soit pas payant parce que bah, notre communauté, tu as un abonnement Netflix, tu as un abonnement de Tête au Monde ou ailleurs, c'est déjà suffisant par rapport au budget. Créer un énième abonnement, je ne suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Mm-hmm. Donc, on voulait quelque chose qui soit accessible, mais aussi indépendant, tant indépendant des algorithmes, mais aussi indépendant financièrement. Et le vrai modèle, qui aujourd'hui est un vrai sujet de réflexion hein, pour les médias, c'est être un modèle en effet d'agence. Cette idée de dire, voilà, on est un média, on a cette capacité aujourd'hui, on est expert en création de contenu, mais vidéo axée réseaux sociaux. Parce que par exemple, sur YouTube, actuellement, il faut le dire, on est mauvais, on ne sait pas faire. C'est une autre approche. Mais sur les réseaux sociaux, en effet, on est très bon là-dessus. Donc, aujourd'hui, on accompagne vraiment des institutions, des entreprises à finalement éditorialiser à créer leurs propres médias. C'est un petit peu cette idée. Nous, on n'est pas une agence de com, on n'est pas une agence audiovisuelle. on reste un média, et c'est vraiment cette idée de dire, voilà, quand on travaille ensemble, on vient créer finalement votre propre média. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne de suivre une énième entreprise sur les réseaux sociaux. Il y en a tellement, puis voir uniquement de l'offre sur un compte, malheureusement, les gens s'en fichent, surtout sur Instagram. On peut faire l'information sur Instagram, il ne faut pas non plus que ça reste dans les codes de Facebook.
Regardez comme c'est intéressant ce qui est en train de se produire ce matin. Vous avez Thibaut Tourvieille, agence Supernatif, qui produit un média qui s'appelle Le Super Daily, qui invite un média qui s'appelle MX, qui a aussi une offre d'agence. C'est peut-être ça, 2020-2021, je trouve ça très intéressant. Est-ce que aussi dans votre démarche agence, hein, donc quand vous produisez du contenu pour d'autres ou que vous intervenez en mode conseil, hein, que vous mettez à disposition vos retours d'expérience là-dessus, est-ce que aussi vous monétisez votre audience ? Est-ce que la base d'audience que vous avez aujourd'hui, elle rentre dans le deal que vous avez sur les marques en disant, bah, en fait, nous, on a une audience, donc on va produire du contenu, il est pour vous, mais en plus, on le met à disposition de notre audience, donc ça, on le monétise aussi.
En fait, en effet, il faut aussi compléter cette... finalement, on a la marque blanche, donc MX n'apparaît pas du tout aux côtés du client. Et on a aussi ce qu'on nous on appelle le co-branding, donc c'est une offre où on va, comme tu dis, monétiser notre audience. Mais là, on a aussi une démarche un peu spéciale, c'est que jamais tu verras des contenus sponsorisés sur le fil en natif. En fait, on a pris la décision pour que ce soit aussi plus simple pour nous en interne de différencier ce qui est finalement les formats qui sont sponsorisés et les formats qui ne le sont pas. On vend des formats qui sont thématisés à des marques, mais qui n'apparaîtront qu'en sponsorisés sur nos réseaux sociaux.
Et pourquoi ? C'est de la déontologie à l'extrême, ouais. Parce que regarde, si je prends Combini, ils s'emmerdent pas. Chaque verticale de contenu, bah, ils ont trouvé un sponsor dessus, et puis roule ma poule. Pourquoi ? C'est quoi
c'est le
complexe du média là ?
Nous, par exemple, on n'est pas en phase avec ça, car au bout d'un moment, l'audience, elle sait plus si c'est du contenu journalistique ou du contenu payant. Ça, moi, ça me dérange. Quand aujourd'hui, il y a eu je sais plus comment on appelle ça, en effet, quand il y avait à un moment donné, c'était très tendance, en effet, de faire des articles et de mettre, en effet, tout un tas de wording, de petits morceaux de contenu, ou même mettre une photo, il y a la marque. Enfin bref, il y avait du placement de produits qui était mis dans les articles. Je pense que c'est encore fait aujourd'hui. Ça nous dérange. Je pense que c'est important que les gens se comprennent. Voilà, on a nos trois formats de contenu, plus des bonus, où là, c'est nous qui décidons d'en parler. C'est nous, il n'y a pas de marque à interférer là-dedans. De temps en temps, on peut aussi avoir un partenaire qui peut pousser un contenu, alors jamais sur le sujet de société, parce que pour moi, il ne peut pas se permettre d'avoir une marque là-dedans, mais par exemple sur le format gratin, on est sur du culinaire. Voilà, de temps en temps, un partenaire où pour nous, ça a du sens, mais quasiment à 99%, en tout cas, notre audience le sera. Et surtout, donc il y a d'un côté cette déontologie, en effet, qu'on souhaite avoir. Puis on le voit sur des médias comme en effet des gros médias nationaux, on voit que les gens commencent à réagir. Attendez, vous parlez d'écologie, mais d'un autre côté, vous bossez avec une marque, ok, vous avez fait un contenu cool, mais par contre, ils sont pas du tout en phase avec ce que vous traitez. Et nous, c'est très important. On peut pas se permettre de faire un sujet où on monte des gars en train de nettoyer la Saône. Et puis derrière, de finalement donner la parole à une entreprise qui serait pas qui serait pas en conscience des enjeux aujourd'hui écologiques, sociétaux, etc.
Une marque de trottinette, par exemple.
Alors, c'est un très bon exemple. Cette idée, justement, de format, c'est juste dire, voilà, dans notre feed, c'est que des contenus qu'on a essayé de faire. Ensuite, on a nos formats qui sont sponsorisés, l'audience est au courant, et qui permettent, en effet, de retargeter uniquement l'audience qui va être intéressée de les voir. Et puis, bah, en effet, tu parles de trottinettes, on a travaillé avec des marques de trottinettes, mais pour leur permettre de prendre la parole, de pouvoir répondre. Donc, c'est vraiment des formats qu'on n'a pas essayé de créer un format qui cherche à divertir, à dire on ne parle pas du problème, regardez, ils sont cool. Ça me gêne. Par contre, on n'est pas du tout gêné. Les entreprises cherchent aussi à s'améliorer, de dire tiens, il y a ce problème. Bah, expliquez-nous comment vous faites.
Ouais, très intéressant. J'aime beaucoup votre deux garçons devant moi avec qui sont très sympas, avec beaucoup de jeux, super projet. Je kiffe MX Lyon. Voilà, maintenant vous le savez, tout le monde le sait. Allez, merci. Si vous voulez suivre MX Lyon, il faut aller sur Instagram @mx.lyon, hein, c'est ça.
C'est ça.
Voilà. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut vous retrouver sur Facebook? C'est pas mal aussi.
C'est les deux endroits, vraiment, Facebook, Instagram, @mx.lyon.
Et vous, à titre perso, alors là, c'est votre première prise de parole là derrière les micros. Si on veut suivre vos aventures personnelles hein, d'entrepreneur dans ce média, où est-ce qu'il faut vous retrouver? Est-ce que c'est sur Twitter, sur LinkedIn? Où est-ce que ça se passe?
plutôt sur LinkedIn. Il faut qu'on travaille ça encore parce que c'est vrai qu'on met toutes nos énergies sur les pages MX.Lyon, mais là, on va commencer à travailler aussi sur nos propres profils.
Et oui, il y a des choses à dire.
Pour parler un peu de ce qu'on fait parce qu'il y a des choses à dire.
Il y a un point de vue, il y a une entreprise.
Aujourd'hui, on est une société aussi où tout le monde veut prendre la parole. On voulait aussi bien connaître le dossier, le sujet, d'arriver quand même à cette finalité parce que prendre la parole sur un média, quand à l'époque on n'avait pas à faire les audiences qu'on souhaitait, voilà, il fallait encore qu'on bosse là-dessus. Aujourd'hui, on a beaucoup bossé, on a encore beaucoup de travail là-dessus parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas s'arrêter non plus qu'à Lyon. Et donc aujourd'hui, en effet, on commence à prendre la parole et à dire, voilà, sur LinkedIn, on veut développer des petites prises de parole de comment aujourd'hui on fait, comment on travaille, voilà, avec grand plaisir.
Alors, n'allez pas en Haute-Savoie, il y a les 8 Mont-Blanc. Ça sert à rien. Hein. Ils sont déjà très, très, très bons. Ils sont vraiment digitalisés. En plus, je blague à moitié. OK, donc ça, c'est bon, les gars. On sait où vous retrouver. Allez les voir sur LinkedIn. Suivez leurs aventures. Venez de la part du Super Daily. Et comme ça, ils acceptent votre invite LinkedIn.
Avec plaisir.
C'est bon. On a un deal. OK. Prochain sujet, là, sur quoi vous bossez? C'est quoi les prochains sujets qu'on va retrouver chez MX la semaine prochaine, par exemple? Vous savez déjà ou pas? On est vendredi, hein, vous m'avez dit tous les vendredis.
Mais le rendez-vous de l'après-midi n'est pas encore passé.
Ouais,
non, en fait, pour faire très simple, on a un point au début du mois, on réfléchit à ce qu'on va traiter dans la semaine, puis ensuite on refait un point chaque vendredi après-midi, en fonction d'un peu des opportunités aussi qu'on peut avoir. Donc là, typiquement, de faire un sujet sur les 70 ans de l'OL, eh ben, ça n'a pas pu se faire cette semaine, ça sera peut-être la semaine prochaine. Tu vois, vraiment cette flexibilité.
Avec Jean-Michel ou pas?
Non, bah Jean-Michel, tu vois, typiquement, tu donnes un bon exemple. Il y a ce genre de personnage très lyonnais. Bien sûr qu'on les a en tête, ce type de personnalité, mais on préfère attendre le très bon moment pour
l'actionner. Je comprends.
Un Jean-Michel Aulas. Et le jour où on fera typiquement Jean-Michel Aulas. Ce sera une interview.
Nous, c'est pareil, on veut parler Twitter avec lui, on ne sait pas comment le faire venir. Donc, voilà.
Mais du coup, pour répondre, voilà, on va avoir potentiellement des sujets là-dessus. On va avoir aussi toujours nos sujets au niveau du gratin. On va arriver sur l'approche de Noël. Donc, les gens, ils ont envie de voir de la bouffe, ils ont envie de voir des bons produits. Donc, là, il va y avoir plein de choses intéressantes. Et puis, l'histoire, on a tout un tas de sujets qui vont être passionnants, notamment l'histoire de Fourvière, que tout le monde connaît. Et on va en parler là, notamment la semaine prochaine.
En fait, le 8 décembre, tombe un mardi qui est le jour de notre format à l'époque dédié à l'histoire. Et du coup, la semaine prochaine, en effet, le format est déjà prêt. Là, ça va être un joli format.
Super. Les gars, un grand merci. Merci d'avoir pris ce temps ensemble derrière les micros. Voilà. Pépite, je le dis, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année. MX, je suis très content de vous avoir accueilli au micro du Super Daily. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, faites-le circuler, partagez-le à une pote, à un pote. C'est important. C'est important pour le Super Daily. Puis c'est cool parce que ça fait découvrir ce média et l'aventure de Loris et Ghislain sur MX Lyon. Et puis, chers amis, je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode du Super Daily. Salut à tous. Ciao.
Merci.
Merci.